Chapitre 4. Le cornemuseur. À bout de force, Aléa se laissa tomber sur un parterre d'herbes fraîches émaillées de pâquerettes blanches et attendit tranquillement de reprendre son souffle, étendu sur le dos. Soudain, elle éclata de rire. Un rire qui la prit par surprise et qu'elle n'arriva pas à contrôler. Le druide lui avait fait tellement peur que ses nerfs se relâchaient soudain, et elle ne s'était tout simplement jamais sentie aussi libre. Si loin de la ville. Cette fois, elle savait qu'elle était partie pour de bon, et cela faisait battre son cœur. Elle avait déjà oublié sa peur et ses larmes, et un sentiment d'impatience l'emplissait à présent. Elle resta encore un long moment allongée dans l'herbe, souriant au soleil rouge, et suivant du regard une grosse mouche noire qui tournoyait bruyamment au-dessus d'elle. Elle passa ses mains sous sa nuque pour surélever un peu sa tête et admirer l'horizon. À l'ouest, elle aperçut le contour crénelé de la forêt. Cette vision ramena à son esprit le doux souvenir de Face, la barde, qui avait chanté de nombreuses histoires de Sylve, ces créatures de légende. Mais elle essaya de l'oublier, se disant à regret qu'elle ne la reverrait sans doute jamais. Elle scruta de nouveau l'horizon. Plus loin au sud, elle admira la chaîne de Gordraka, dont les sommets aux reflets roses et blancs se perdaient dans un océan de nuages. Pour l'heure, elle était bien décidée à se rendre à Providence, où elle en était sûre, elle retrouverait Amine. Elle se leva d'un bond et repartit vers le sud, traînant ses pieds dans le sable blanc de la lande. Elle marcha plusieurs heures avant de sentir la faim au creux de son ventre. À nouveau, elle allait devoir trouver seule un moyen de manger et de dormir. La lassitude, la fatigue et l'inquiétude vinrent bientôt étouffer cette force qui l'avait menée jusqu'ici. C'est alors qu'elle assista à une scène étrange. La lande se creusait à cet endroit, comme une vallée entre deux collines, et des rochers imposants entouraient le chemin de sable blanc. Un passage idéal pour une embuscade. Et justement, quelques mètres plus loin, au beau milieu de la route, deux brigands armés de bâtons entouraient un petit homme, trop petit pour être un homme et trop trapu pour être un enfant. Il devait s'agir d'un nain, et Aléa comprit qu'il avait besoin d'aide. Les deux hommes le menaçaient de leurs bâtons alors que lui n'avait aucune arme. Sans hésiter, la jeune fille ramassa par terre un paquet de pierres qu'elle cacha dans sa poche avant de s'avancer d'un pas vif vers les trois inconnus.
« Vous n'aurez pas mon argent !»
criait le nain aux deux hommes. Aléa s'approcha et distingua enfin l'étrange accoutrement des brigands. Elle comprit en voyant leurs vêtements blancs et le tatouage sur leur front qu'il s'agissait de bannis. Aléa n'avait vu des bannis qu'une seule fois, à Saratea. Elle avait alors éprouvé de la pitié pour ces parias à qui personne ne devait adresser la parole. Le bannissement, déclaré par les druides, par les vassaux ou par le haut roi, était la dernière punition avant la peine de mort, dans tous les fiefs de la Gaelia, et Aléa se demandait finalement laquelle des deux était la pire. Les bannis n'avaient plus aucun droit. On ne leur adressait pas la parole, on ne devait pas leur accorder l'aumône, ni le moindre témoignage de pitié ou de sympathie. Ils n'avaient accès à aucun lieu public, ni auberge, ni même les simples commerces, et de toute façon, ils n'avaient pas l'argent pour en profiter. Souvent, ils se réunissaient dans la campagne et partageaient le fruit de leur chasse et de leur pêche. Mais dès qu'ils formaient un groupe trop nombreux, les soldats venaient pour les séparer. La plupart du temps, les bannis se laissaient mourir sous le ciel de la Gaelia sans éveiller la moindre pitié. Quand quelques années plus tôt, elle avait vu marcher ces bannis décharnés dans la ville, elle s'était dit qu'elle avait bien de la chance à côté d'eux et que la justice n'était pas toujours juste. Mais aujourd'hui, c'était davantage pour ce nain qu'elle éprouvait de la pitié. L'un des deux bannis s'approcha en dressant son bâton au-dessus de sa tête. Mais avant qu'il ne puisse l'abattre sur le nain, Aléa envoya une pierre dans sa direction, de toutes ses forces. Elle avait peu de chances de l'atteindre à cette distance, mais elle s'était souvent entraînée au lancer de cailloux à Saratea et était devenue particulièrement habile en tirant sur les oiseaux et parfois même sur les vitres des villageois qui l'avaient ennuyée. Par chance, ce caillou-là arriva pile à l'endroit qu'elle avait visé. Le banni reçut la pierre en pleine nuque et tomba aussitôt par terre, la tête la première, complètement sonnée. Le nain, qui avait vu Aléa arriver, profita de la surprise occasionnée par l'attaque pour décocher un coup de poing au ventre du second, qui se plia en deux en hurlant de douleur. Aléa ne perdit pas de temps, et alors que les deux bannis se relevaient, incrédules, elle leur lança de nouvelles pierres en hurlant le cri dont elle usait, toute petite, pour faire peur aux garçons du village.
« Je suis la fille de la terre ! Je suis la fille de la terre !»
Les deux brigands, tordus de douleur, s'enfuirent sans demander leur reste sous le rire moqueur du gros nain. Aléa lâcha ses dernières pierres en regardant les deux couards s'éloigner, et avec une fierté non dissimulée, elle rejoignit le nain en lui tendant la main.
« Je m'appelle Aléa, »
dit-elle tout sourire, portée par quelque fierté.
« Et tu es une sacrée bonne femme, ça oui !»
répondit le nain sans cesser de rire.
« Moi, je m'appelle Mjoln Abak. »
« Comment ?»«
Mjoln !»
C'est un drôle de nom, s'étonna la petite, qui était un peu vexée que le nain l'ait traité de bonne femme.
« Pas drôle pour un nain. Drôle pour une femme lanceuse de pierres, ça peut être. Les tiens m'appellent souvent le cornemuseur, à cause de mon instrument. »
Il montra la cornemuse qui était attachée dans son dos.
« En tout cas, merci pour ton aide. Tu leur as fait bien peur à ces deux idiots. Non pas que j'aurais pas pu me débrouiller sans toi. Oh oh oh, mais au moins, ça m'a bien fait rire. »«
C'est ce que je vois, » dit-elle avec ironie.
« Parle à Moira, »
reprit le nain.
« Il va falloir que votre roi fasse quelque chose pour les bannis. Ça, oui, ces pauvres hommes deviennent fort agressifs. C'est le moins qu'on puisse dire. Et où vas-tu comme ça, toute seule, lanceuse de cailloux ?»«
À Providence, » répondit Aléa en inspectant son interlocuteur de haut en bas. Elle avait déjà vu un ou deux nains dans des auberges de Saratea, mais elle parlait avec l'un d'eux pour la première fois et trouva qu'il avait l'air plutôt sympathique, malgré sa voix sourde et rauque et son étrange façon de parler. Il était vêtu de cuir des pieds jusqu'à la tête, portait deux ceinturons, une gourde en bandoulière et un drôle de chapeau marron coiffé d'une longue plume d'oie blanche. De son dos, on voyait dépasser les tuyaux en bois de son instrument de musique, et quand il bougeait, quelques notes s'en échappaient d'une manière quelque peu ridicule. Il était plus petit qu'Aléa, mais beaucoup plus large, et sa barbe rousse frottait contre son torse.
« Ah, moi, j'allais plutôt vers le nord, vers Blémur, où il fait bon vivre dans les collines. Mais j'aimerais bien te remercier d'une façon ou d'une autre. Ah, que puis-je t'offrir en guise de bonne reconnaissance ?»
Aléa hésita un moment. Elle ne voulait pas paraître grossière, mais la faim se faisait de plus en plus ressentir. « Eh bien, » répondit-elle enfin, « je n'ai rien à manger et je commence à avoir faim. »
« Je vois. Miam, miam, miam. À ça manger, oui. C'est ce que je sais faire de mieux, après la cornemuse. Je suis le roi des mangeurs. Si tu acceptes de me tutoyer, malgré mon grand âge, alors je veux bien t'inviter pour un bon repas dans cette auberge que j'ai croisée un peu plus au sud. Ah, on pourra faire connaissance, chanter un peu et compter les nuages pour se moquer du ciel. »
Mais vous deviez partir vers le nord ?
Le sud ou le nord, ça dépend où on met la tête. Il paraît même que plus on va au nord, plus on a de chances de finir dans le sud. Ah, oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas ? Parole de nain, si je trouve celui qui a inventé le sud, je lui ferai perdre son or. Allons, lanceuse de cailloux, je ne suis pas pressée. Ce n'est pas tous les jours qu'on croise une aventurière comme toi. Je reprendrai mon chemin plus tard. Tous les chemins finissent par se toucher. »
Une aventurière. Il l'avait appelée aventurière. Aléa était flattée, enchantée, elle qu'on n'avait jamais traitée que de voleuse ou de pouilleuse. Cela lui plaisait bien qu'on la prenne pour une aventurière. Seule une adulte pouvait être appelée ainsi. Aléa leva le front et son visage sembla s'éclairer à la lumière de ses grands yeux bleus.
Alors, allons-y, ne perdons pas de temps,
déclara le nain alors qu'au loin se formaient de gros nuages gris. Et ils partirent côte à côte, comme deux vieux compagnons. Le nain, chaleureux et rieur, s'avéra aussi des plus bavards, et ce ne fut pas pour déplaire à la jeune fille qui avait besoin de se changer les idées.
« D'où viens-tu ? »
« De Saratea. »
« Il ne faut pas s'arrêter à Saratea. S'arrêter à Saratea. Tu viens de là ? Je comprends que tu sois parti.
Pourquoi ?
Il ne se passe rien à Saratea. La vie s'arrête à Saratea. Non ? Bon, sinon, pourquoi es-tu parti ?
On m'a chassé.
Comme du gibier ? Et ils t'ont plumé aussi ?
Ils continuèrent à parler longtemps, s'amusant et oubliant tout. Le temps, les bannis, la marche. Bjoln, que rien ne semblait pouvoir arrêter, raconta qu'il s'en revenait du Vieux-Port, où il avait pu revendre les objets qui lui étaient restés sur les bras après la fermeture de sa boutique. La vie de Mjoln semblait bien compliquée, et Aléa découvrit très vite que son grand âge lui avait permis de pratiquer un nombre incroyable de métiers. Le nain, comme tous les nains semblait-il, avait d'abord été forgeron à Pelpi, le village de son enfance, au sud-ouest de Farfanaro. C'était le métier qu'il avait pratiqué le plus longtemps, et il en connaissait tous les secrets et racontait qu'il avait même fabriqué une épée pour le neveu du baron de Bizagne. Mais à la mort de sa femme, Mjoln avait décidé de quitter son village pour partir sur les routes du monde et découvrir tout le nord du pays. Il s'était dit à l'époque qu'il visiterait le monde tant qu'il n'aurait pas atteint la taille d'un humain, ce qui risquait d'être bien long. Il avait d'abord rejoint un groupe d'acteurs, des cheminants fort accueillants, auprès desquels il avait appris le théâtre, mais aussi à se diriger et à se débrouiller seul au milieu de la nature. Les cheminants ne restaient jamais plus d'une nuit dans les villes où ils donnaient leur spectacle et passaient leur vie sur les routes et les chemins, dans leurs roulottes colorées. On les appelait aussi « enfants de la Moïra » parce qu'ils lui consacraient leur vie, à l'écoute de ses signes, mettant leur sort entre ses mains. Les cheminants ne faisaient jamais de plans, ne prévoyaient pas l'avenir, ne pensaient pas au lendemain. Ils se laissaient guider dans le courant de la Moïra et vivaient au jour le jour. C'est à leur côté que Mjoln avait appris à ne plus avoir peur de la mort, disait-il. Il lui avait enseigné bien d'autres choses encore, qui lui servirent plus tard, comme le nom des fleurs, des arbres, celui des plantes comestibles et celui des champignons mortels. Il était resté ainsi avec les acteurs 2 années complètes et les avait quittés enfin un jour qu'ils passaient près de Providence. Le nain avait erré quelques jours dans la ville gigantesque, avait appris à ne pas se perdre dans le dédale de ses rues larges et bondées, puis il avait trouvé une place d'apprenti chez un vernisseur de meubles. Il avait appris à vernir le bois au tampon, pour lui donner une brillance discrète sans trahir la matière naturelle, à confectionner lui-même le vernis et la laque avec la résine et la sève des arbres, à mélanger les teintes pour redonner aux meubles une couleur uniforme, et surtout, il avait appris à aimer le bois, lui qui ne connaissait que le fer. C'était un matériau si noble, qui continuait de vivre longtemps après sa mort. Le bois bougeait, changeait, et la nuit, il lui semblait même qu'il lui parlait. Mjoln pouvait rester des soirées entières à passer sa large paume sur le dos des meubles entassés dans l'atelier de l'artisan, caressant le bois dans le sens de ses veines, lentement, comme la peau d'une femme. Il pouvait même passer sa main sur le vernis encore frais sans abîmer la surface, tant il était délicat. Il aimait l'odeur du vernis qui emplissait l'atelier et qui restait imprégné sur ses doigts une fois le travail terminé. Il s'était senti si bien dans son nouvel emploi qu'il était resté là presque 3 ans, jusqu'au jour où le vieux vernisseur avait fermé boutique pour finir ses jours à Vieux-Port, comme le faisaient souvent les artisans de Providence. Quand Mjoln s'était remis sur la route, il avait les mains noircies par la teinte jusque sous les ongles, et aujourd'hui encore, il gardait fièrement les traces de son artisanat. L'année suivante avait été la plus difficile, mais aussi la plus importante pour lui. Il avait voyagé seul jusqu'aux montagnes de Gordraka, qu'il entreprit de franchir. Si le plus petit homme du monde pouvait franchir la plus haute montagne du monde, alors rien n'était impossible, s'était-il dit, peut-être même d'atteindre la taille d'un humain. Il avait commencé à grimper par la façade sud de Gordraka, rencontrer quelques bergers solitaires et leurs troupeaux de moutons, puis avait dormi à la belle étoile sous le souffle du vent. Chaque matin, il était reparti le cœur joyeux pour marcher jusqu'au soir, après d'interminables lacets sur le flanc de la montagne. Bientôt, il n'y avait plus eu un seul homme sur sa route, seulement quelques chamois et marmottes qui l'espionnaient en silence. La pente était de plus en plus raide, le sol de schiste de plus en plus glissant. Et les rayons de soleil étaient si forts que Mjoln avait cru plusieurs fois perdre la tête. Mais le plus difficile était de se nourrir. À mesure qu'il montait, Mjoln avait eu de plus en plus de mal à trouver des plantes et des poissons, et il avait pensé mourir de faim quand, par chance, il était tombé sur une vieille cabane de bois où les bergers, sans doute, avaient soigneusement conservé dans le sel quelques aliments substantiels. À peine de quoi faire un repas, mais cela lui avait permis au moins de reprendre des forces et du courage, et le lendemain, John s'était remis en route. Chaque jour, une nouvelle partie de son corps lui faisait mal. Sa bouche, asséchée, brûlante. Ses yeux, rouges et baignés de larmes. Ses mains, blessées de toutes parts. Son dos, rigide et endolori. Ses jambes, nouées de crampes. Ses pieds, ensanglantés. Chaque nouveau pas le faisait souffrir, et il avait perdu depuis longtemps la notion du temps, continuant à la seule force de son orgueil. Et il n'était plus que l'ombre de lui-même quand il avait enfin atteint un col sous le sommet de Gordraka. Continuer plus haut aurait été de la folie. La paroi était à pic et Mjoln était beaucoup trop faible. Mais il avait gagné son pari. Il allait passer de l'autre côté de la montagne. Il s'était écroulé au sol, secoué seulement par des larmes où se mêlaient la douleur et la joie. Il était resté là plusieurs jours, reprenant lentement des forces dans le berceau du col de Gordraka, à regarder tout en bas la ville d'Atarmadja, et plus au sud encore, la forêt de Brosselia. Quand au soir le soleil se couchait loin à l'ouest, la mer s'habillait d'une magnifique robe violette. C'était le spectacle le plus splendide que Mjoln n'avait jamais vu, et les rares plantes qu'il avait trouvées alentour lui avaient suffi à tenir debout, tant il semblait pouvoir se nourrir simplement de la beauté des montagnes et du monde autour d'elle. Il avait passé ses journées à se laisser envahir par la grâce du monde, jusqu'au jour où il avait compris le sens de son propre voyage. Il ne voulait plus grandir comme un homme. Le lendemain, Mjoln avait entamé la longue descente qui allait le mener de l'autre côté de la montagne, et son cœur était empli de joie. Quelques semaines plus tard, il s'était installé dans le petit village de Blémur, où il avait pratiqué de nombreux métiers, teinturier, cuisinier, cordonnier, palefrenier, jusqu'à ce qu'il ouvre sa propre boutique, un bazar où l'on trouvait tout et n'importe quoi. Il avait tenu son magasin en se montrant un commerçant des plus aimables et s'était fait apprécier par les habitants du village, qui savaient qu'il pouvait toujours tout trouver chez Mjoln. Et quand bien même il n'avait pas l'article désiré, on pouvait être sûr qu'il ne mettait pas plus d'un mois pour se le procurer. 10 années avaient passé. Le nain avait appris à jouer de la cornemuse auprès d'un barde, puis un jour, il s'était décidé enfin à repartir sur les routes. Il était là, et le voyage lui manquait. Il lui fallait un nouveau défi, et Mjoln en trouva un, plus fou encore que la montagne de Gordraka. Maintenant qu'il avait appris la cornemuse, il s'était juré qu'il deviendrait le premier barde nain. Il avait revendu sa boutique, puis était parti à Vieux-Port pour se débarrasser des derniers objets inclassables dont personne ne voulait à Blémur.
« Ainsi ?» expliqua le nain. « Je m'en reviens de Vieux-Port et je cherche un druide qui veuille bien faire de moi un barde. Tu vois un peu tout ce qu'on peut faire en commençant forgeron. »
J'ai connu un forgeron, intervint Aléa. Ou, en tout cas, la fille d'un forgeron.
Et moi, je n'ai pas de fille. Tralala! Il y a bien eu ma femme, il y a fort longtemps. Mais c'est encore une autre histoire.
Raconte-moi, demanda la petite, alors que se profilait enfin au loin l'auberge vers laquelle il se dirigeait.
Encore ? Bon, je te raconte. Quand j'avais à peu près ton âge, ou peut-être un peu plus, le double, ou peut-être le triple, je ne sais plus, je suis tombé amoureux de mon amie d'enfance. Elle s'appelait Zaïn. Belle Zaïn. Et nous avions grandi ensemble dans les ruelles de Pelpi. Comme ce nom est doux dans ma mémoire. Pelpi. Pardon ? Ah oui, Zaïn. Zaïn était espiègle, vive et joyeuse, et moi, comme mon père, j'étais plutôt pâteau, lent et songeur. Pourquoi tu ris ? Oui, je suis songeur, moi, lanceuse de cailloux. C'est Zaïn qui m'a appris à rire de tout, et en échange, je lui fis partager mon amour pour les étoiles. Tu aimes les étoiles ? Ah, regarde comme elle se cache le jour et se réserve à la nuit pour consoler un peu les insomniaques et les allumeurs de réverbères. Tiens, ce soir, je nommerai une étoile Aléa, en souvenir de la lanceuse de cailloux. En tout cas, un jour, alors que nous étions amis depuis toujours, je me suis rendu compte que peut-être nous nous aimions. D'amour, je veux dire, avec un « A » des plus majuscules. Et le lendemain, je l'ai demandé en mariage. Au début, elle a cru que j'étais fou, mais pas du tout. Bien des années plus tard, l'histoire m'a donné raison. Nous étions bien amoureux l'un de l'autre. Finalement, elle accepta de devenir ma femme, et le village nous offrit notre nouveau toit.
Ils vous l'ont offert ? S'étonna Aléa.
Oui, c'est comme ça chez nous. Quand un couple se forme, tout le village se réunit pour construire sa maison. Cela ne dure que 2 semaines au bout desquelles le couple est officiellement marié. Chez nous, la cérémonie du mariage, c'est un chantier de 2 semaines. Nous espérions avoir des enfants, bien sûr. J'aimais beaucoup Zaïn et je voulais qu'elle soit la mère de mes nains. Non, pas le nerf de mes mains, ni la mère naît demain. On fait n'importe quoi avec les mots, hein? Il n'y a rien de plus drôle que les mots et... Pardon? Ah oui, Zaïn. Je ne pouvais imaginer personne d'autre. D'ailleurs, enfin bref, nous voulions des enfants et avions même préparé leur chambre que Zaïn passa une année entière à décorer. Et puis un soir, les Gorgounes sont arrivés à Pelpi.
Les Gorgounes?
Tu n'en as jamais entendu parler?
Si, bien sûr, mais je croyais que c'était des contes pour faire peur aux enfants. Les Gorgounes existent vraiment?
Ah, oui, les Gorgounes existent. Et ils ont en plus une haine féroce envers les nains. On la leur rend bien d'ailleurs, hein, il faut dire. Sale bête.
Et à quoi ça ressemble un Gorgoune? Demanda Aléa, les yeux écarquillés. Après les histoires de Sylve que la barde avait racontées à l'auberge, voilà qu'un nain lui parlait maintenant des Gorgounes. Toutes ces créatures de légende lui paraissaient jadis si mystérieuses qu'elle avait du mal à y croire aujourd'hui et qu'elle s'émerveillait à l'idée de pouvoir découvrir chaque jour autant de nouveaux prodiges.
« Un Gorgoune ? C'est très laid. Il n'y a rien de plus laid. Les bannis de tout à l'heure gagneraient un concours de beauté au pays des Gorgounes. Perc ! Ils sont complètement disloqués. » Comme si leurs os étaient sur le point de sortir de leur peau verte. Oui, ils ont la peau verte, comme des crapauds, sales, et de petits yeux rouges inquiétants. Ils sont poilus, mais surtout, ils sont fort agressifs. Je les déteste. Vous m'entendez, les Gorgounes? Je vous déteste! Enfin bref, ils sont arrivés pour piller le village et avant que nous ne parvenions à repousser ces monstres, ils avaient déjà tué la moitié des habitants de Pelpi. Quand je suis retournée dans la maison, j'ai trouvé le corps de ma femme étendu par terre. Zaïn, les Gorgounes l'avaient tué. Ils m'avaient enlevé ma raison de vivre. Belle, comme elle me manque. Je lui suis restée fidèle depuis, et c'est pour cela que je n'ai pas d'enfant, vois-tu?
Elle est plutôt triste, ton histoire.
Oh, je suis partie sur les routes, et la montagne de Gordraka a un peu soigné mes maux. Et toi, ton histoire?
Il n'y a pas grand-chose à dire. En vérité, j'ai l'impression que je viens seulement de naître. Le nain la regarda d'un air étonné. Puis Aléa lui raconta un peu sa vie, les rues de Saratea, la fille du forgeron, le boucher obèse et le chef des soldats. Elle lui parla du corps enfoui dans la lande, cette histoire que vous connaissez déjà, et elle lui montra même l'anneau en lui expliquant qu'elle partait pour le vendre à Providence. Les nuages s'épaississaient, avançaient lentement dans le ciel, et l'atmosphère lourde semblait indiquer qu'un orage n'allait pas tarder à éclater. Mais ils s'en souciaient peu et ne virent pas le temps passer. Aléa se régalait en écoutant le nain. Retrouvait cette sensation de confiance qu'elle avait jadis éprouvée en présence d'Amine. Quand enfin ils arrivèrent à l'auberge, ils se réjouirent à l'idée de pouvoir se rassasier, tant ils avaient faim.
« Je vous écoute, maître. » Je veux que vous me rameniez celui qu'on appelle Ilvain. »
Maol Morda n'avait pas quitté son trône au palais de Shanka depuis qu'il avait tué Aldero. La pièce était plongée dans une obscurité froide. L'énergie du maître des lieux saturait l'atmosphère. Deux cadavres gisaient à la droite du trône. Deux serviteurs sacrifiés, peut-être simplement par plaisir. L'odeur du sang et de la pierre humide envahissait la salle à en donner la nausée. Une jeune fille dénudée, allongée sur le ventre, couverte de sang, la chair lacérée de griffures et de morsures, était attachée à une colonne de pierre par des chaînes qui lui entaillaient les chevilles et les poignets. On entendait en bruit de fond ses sanglots étouffés. Les murs semblaient vivants, parcourus par des filets lumineux qui glissaient jusqu'au sol comme des coulées de lave. La salle du trône était tout entière possédée par l'âme de Maol Morda. Un colosse en armure se tenait à genoux, n'osant pas même lever la tête pour voir le visage de son maître. Maol Morda ne lui en aurait peut-être pas tenu rigueur, mais il préférait ne pas essayer. Trop d'hommes étaient morts avant lui à vouloir tester la tolérance du maître. Aïn Sultor était le prince des Erilim, le jeteur d'ombre, digne héritier de l'ancienne lignée des voleurs d'âmes, et Maol Morda en avait fait son bras droit pour s'assurer la fidélité de tous les Erilim, des alliés décisifs. Sultor était un géant, et ses muscles semblaient taillés dans le roc. Son armure noire assombrissait encore davantage son visage lugubre, et sous son casque scintillaient les billes ténébreuses de ses yeux. Ainsi avait-il hérité de son nom, Aïn Sultor, les yeux noirs. Mais devant Maol Morda, il n'était rien. Rien qu'un serviteur obéissant et terrifié par les pouvoirs de son maître. Maol Morda avait fait la démonstration de sa puissance par deux fois au cours des derniers jours, comme il réunissait une petite armée de gorgones afin de parvenir à ses fins. Les gorgones étaient stupides, et Maol Morda avait dû en tuer plusieurs, pour l'exemple. Les flammes et les éclairs qui avaient jailli de son corps assureraient pour longtemps son statut de maître auprès des nombreux gorgones et des Erilim qui les dirigeaient pour lui. Sultor hésita avant de parler. Pour ne pas être tenté de lever les yeux, il fixait une petite lueur au coin d'une dalle et s'imaginait la figure de son maître, gonflée de sang, ciselée par des veines saillantes où coulait la sève du mal, prête à exploser. Et au milieu, ses yeux vides, fenêtres opaques qui cachaient à peine le bouillonnement d'une magie en furie.
« Comment le reconnaîtrais-je, maître ?»
demanda le géant sans lever les yeux, la main posée sur le pommeau doré de son épée.
« Il est le Samil Danak. Sa puissance le trahira et vous n'aurez aucune peine à le reconnaître, prince des Erilim. Mais ne vous avisez pas de le combattre. Faites-le venir ici. Amenez-moi cet Ilvain. Si jamais il n'y a d'autre issue que le combat, alors tuez-le et conduisez-le à moi dans ce linceul. » Ainsi, il conservera son pouvoir jusqu'à moi, et l'Unsin pourra commencer.
Il sera fait selon vos désirs, maître.
Sultor se leva, fit volte-face, et quitta la salle du trône. Au service de son maître, rien ne pourrait l'arrêter. Imala partit vers le sud et entra bientôt dans une forêt plus dense où culminaient des futaies de chênes, de pins et de bouleaux. Les pattes enfouies dans une herbe haute, elle marchait prudemment, s'assurant à chaque foulée qu'on ne la suivait pas dans cette région qu'elle ne connaissait guère. La forêt sentait bon, un mélange de sève, de résine, d'herbe humide et de terre. Un petit vent frais lui chatouillait le museau et la faisait cligner des yeux. Imala se perdait dans les effluves de parfums qui allaient et venaient dans la danse du vent. Ses pattes trempaient dans une rosée abondante et vivifiante. Elle était bien. Elle n'avait pas mangé depuis la veille et espérait seulement qu'elle pourrait trouver du gibier dans les herbes de cette forêt. Curieusement, elle ne ressentait déjà plus la douleur d'avoir perdu ses petits, même si elle gardait un souvenir rempli de haine à l'égard d'Aena, la dominante. Mais elle connaissait à présent une nouvelle émotion, celle de l'aventure et de l'inconnu. Elle se pourlécha les babines et s'enfonça plus avant dans les bois, bercée par le chant des oiseaux et le ululement d'une chouette matinale. Après une heure de marche, elle trouva enfin un marcassin égaré. Il grommelait sans cesse, appelant sans doute la mère qu'il avait perdue. Mais cela n'arrêterait pas la louve, que seule la faim motivait. Elle s'immobilisa, surveilla sa proie un instant, puis se plaqua sur le sol, la queue tendue à l'horizontale, la tête en avant, les oreilles couchées, et avança lentement vers le jeune sanglier, déjà bien en chair, mais qui semblait encore malhabile. Une cible idéale. Quand Imala ne fut plus qu'à quelques mètres du marcassin, celui-ci se dressa soudain. Il avait dû l'entendre ou sentir son odeur. Mais la louve s'y attendait et ne perdit pas une seconde. Elle se précipita sur sa proie, la gueule grande ouverte. Le marcassin tenta de donner des coups de ses défenses naissantes, mais la mâchoire de la louve se referma sur son large cou. Le jeune animal tomba sous le choc, et Imala ne lâcha pas prise, secouant la tête violemment pour l'égorger. Elle continua de serrer tant que couinait le petit sanglier. Elle sentait le sang poisseux couler le long de sa gueule, et cela l'excitait encore davantage. Après quelques derniers soubresauts convulsifs, le marcassin perdit la vie entre les crocs de la louve. Imala garda sa prise quelques instants de plus, puis emmena sa proie plus loin pour se repaître de sa chair, sous l'ombre immobile d'un vieux chêne. Elle s'endormit une heure plus tard, le ventre plein et l'esprit apaisé. Quand elle se réveilla, elle fut tellement surprise qu'elle fit un bond en arrière et se coucha contre le sol en montrant les crocs. Elle n'avait pas entendu arriver le vertical qui était assis devant elle. C'est ainsi que les loups voyaient les hommes et tous ceux qui pouvaient se tenir debout. Des verticaux. Il s'était approché d'elle pendant son sommeil et s'était assis juste là pour la regarder dormir. Imala n'avait jamais vu un vertical de si près, et c'était terrifiant. Pourtant, il ne semblait pas lui vouloir de mal. Son odeur n'avait rien d'agressif, et ses gestes calmes et lents était finalement rassurant. Tapis dans l'herbe, Imala se leva par à-coups pour mieux voir le vertical qui ne bougeait pas et continuait de la regarder. Elle remarqua alors qu'il était grand et fin et qu'il était très différent de l'image qu'elle s'était faite des verticaux. C'était surtout la couleur de sa peau, ses oreilles et la finesse de son visage qui l'étonnaient. Intriguée, la louve décida de ne pas fuir tout de suite, même si son instinct le lui dictait. Au même instant, d'une voix douce et mélodieuse, le vertical lui parla tendrement.
« Atnefrian, Imala Cloth. »
Sa voix apaisa aussitôt la louve qui se dressa sur ses pattes et marcha de côté. Le vertical en profita pour se lever lentement et il s'éloigna sans un bruit. La louve s'arrêta net et le vit disparaître au milieu des arbres de la forêt et des rayons opaques du soleil qui se faufilaient entre les branches comme une pluie de lumière. Imala partit renifler l'herbe aplatie où s'était assis le vertical, mémorisant à jamais l'odeur de cette créature étrange et amicale. Elle fit demi-tour et reprit le chemin de l'inconnu entre-temps, la queue battante. La petite auberge était installée juste au bord de la route. La lande se vallonnait de plus en plus par ici, et plusieurs arbres se dressaient autour du bâtiment. Quelques dépendances prolongeaient l'auberge vers le sud, granges, étables, pressoirs. C'était une étape incontournable pour les voyageurs qui ne pouvaient que se laisser tenter par le fumet délicieux qui s'échappait de la cuisine, dont la fenêtre restait judicieusement ouverte. C'était une auberge large et basse, construite en pierre sèche sous un épais toit de chaume. Aléa et Mjoln s'engouffrèrent à l'intérieur. Dehors, on entendait gronder les premiers signes d'un orage. La grande salle de l'auberge ne ressemblait pas du tout à celle de l'Oie et le Grill. Ici, les murs étaient sales, le mobilier était quelconque, abîmé, et les tables rangées sans ordre apparent. Le bruit ambiant était étourdissant. Pourtant, l'auberge baignait dans une humeur chaleureuse. L'humeur du voyage, celle de la pause méritée, de la détente avant la reprise de la marche. Loin du confort de l'auberge de Saratea, ici, on ne faisait pas de manière et on mangeait bruyamment. Deux serveuses enjouées couraient de table en table sans jamais s'arrêter, et Aléa se dit qu'elle n'aurait jamais pu les remplacer. Rien à voir avec le rythme qu'elle avait connu chez Kerry et Tara. Ici, les deux serveuses avaient toujours les bras chargés d'assiettes, de cruches et de godets, et semblaient danser selon une savante chorégraphie. L'arrivée de l'orage avait réuni plus de monde qu'à l'accoutumée. La fumée des pipes et des plachots faisait une nappe épaisse et lourde qui, avec le fond sonore, devenait vite étouffante. Dehors, le ciel était à présent tout assombri. Un premier éclair vint ciseler le plafond de nuages. Il n'y avait plus un banc de libre, et Mjoln et Aléa tournaient en rond, de table en table, un peu perdus, quand quelqu'un les interpella derrière eux.
« Mademoiselle, monsieur, vous pouvez vous asseoir à notre table. Quand il y a de la place pour trois, il y en a pour cinq. »
Trois jeunes hommes, portant un étrange chapeau noir et plat, leur adressaient un sourire. Aléa parut étonnée et interrogea le nain du regard.
« Ah, ce sont des étudiants du Mont-Tombe, Aléa. Ils ont un drôle d'uniforme, non ?»
Le nain et la jeune fille ne se firent pas prier davantage, ignorant sans doute que les universitaires du Mont-Tombe n'étaient pas très bien vus dans la région, et s'assirent face à face aux côtés des jeunes garçons.
« Bonjour, je suis Darag, et voici Garrett et Pierce. »
Avec le bruit de l'orage et de la clientèle, il fallait presque crier pour se faire entendre.
« Bonjour à vous !»
répondit le nain, alors qu'Aléa se contentait d'un sourire timide. Les trois universitaires dégustaient un cuisseau de porcelet dont la magnifique teinte dorée faisait envie. La cuisinière avait enlevé l'essentiel de la couenne, légèrement saupoudré le gras de sucre, réchauffé le cuisseau jusqu'à l'os et l'avait mouillé d'un peu de jus de cuisson pour lui donner sa couleur et sa saveur sans brûlure. Le magnifique morceau de viande était servi avec une macédoine de légumes blanchis et étuvés au beurre. Mjoln se frotta les mains et passa sa langue sur ses lèvres tel un jeune chiot se léchant les babines. Dès qu'une serveuse fut assez proche pour l'entendre, il demanda, impatient, qu'on leur donne la même chose. La serveuse acquiesça en riant et s'engouffra dans la cuisine.
« Vous allez vers le sud ou vers le nord ?»
demanda celui des trois universitaires qui s'était présenté comme Darag.
« Moi, je vais vers le sud, à Providence !»
répondit fièrement Aléa, pour qui visiter la capitale semblait un privilège.
« Moi aussi !»
enchaîna Mjoln, à la surprise de la petite. Pendant la marche, Mjoln avait secrètement décidé qu'il allait accompagner sa nouvelle amie à Providence. Il trouvait Aléa attendrissante et ne voulait pas s'en séparer si tôt. Il n'était pas pressé de rentrer à Blémur. Après tout, aucune femme ne l'attendait là-bas. Il faut avouer qu'il était aussi très flatté de voir combien la petite riait de bon cœur à chacune de ses farces, et ils se délectaient tous deux d'une amitié aussi forte que précipitée. C'était un de ces moments magiques où le futur se dessine soudain à la lumière d'une nouvelle rencontre.
« J'accompagne Aléa à Providence !»
continua-t-il en souriant comme s'il venait de faire une bonne farce.
« Et vous ?»« Nous descendons aussi vers le sud, mais jusqu'à L'Anse-des-Bonnes, où nous terminerons nos facultés. »
Les étudiants de l'université du Mont-Tombe, pour la fin de leurs études, devaient passer une année complète sur les routes du monde par petits groupes de trois ou quatre. On leur donnait alors une mission à accomplir. En général, il s'agissait de ramener à la bibliothèque du Mont-Tombe certaines informations précises pour compléter quelque ouvrage savant, et dans n'importe quel domaine. Certains devaient revenir avec une longue étude sur tel ou tel métier, d'autres sur la géographie d'une région, d'autres encore sur sa politique ou son histoire. Rien n'échappait à la curiosité de l'évêque Aeditus et de son église, et ces petits voyages, qu'on appelait les facultés, permettait en plus de vanter les mérites du christianisme et de sa vision du monde. Car les chrétiens ne voyaient pas les choses de la même manière que le peuple de Gaelia. Même s'ils n'osaient le dire haut et fort, leur philosophie remettait en cause l'idée même de la Moïra. Les moines de l'université essayaient donc petit à petit de faire passer leur savoir du côté de la culture populaire, et un jour, peut-être, viendrait le temps d'affirmer les conséquences de leur théorie. Mais pour l'heure, il s'agissait de réunir le plus d'étudiants possible, et ceux qui partaient sur les routes pour accomplir leur faculté jouaient souvent aussi le rôle d'agents recruteurs.
« Et que devez-vous étudier dans L'Anse-des-Bonnes ?»
demanda Aléa, qui n'était même pas sûre de savoir ce qu'était vraiment cette anse.
« Mais les fameux échassiers, bien sûr !»
répondit Pierce sur un ton qu'Aléa trouva quelque peu méprisant.
« Ah oui. Et c'est quoi des échassiers ?»
insista la petite en haussant les sourcils.
« Ce sont les habitants d'Ebonne, »
reprit le jeune universitaire comme s'il récitait sa leçon.
« Une ville sur pilotis située dans l'anse du même nom, et d'où l'eau se retire une fois par jour. Les habitants sortent alors de leur maison et se déplacent sur de grandes échasses qui s'enfoncent dans la vase où ils peuvent pêcher tranquillement. C'est pour cette raison qu'on les appelle les échassiers. C'est une coutume très particulière et on ne sait pas grand-chose à leur sujet. Ce sera l'objet de notre étude. »
« C'est passionnant !»
assura Mjoln, mais son regard s'était tourné vers le cuisseau fumant que lui apportait la serveuse avec une dextérité remarquable. Aléa, elle, était réellement intriguée par cette histoire, et surtout par l'université du Mont-Tombe. Ainsi, il existait un endroit où l'on accumulait tout le savoir du monde, et où l'on écrivait tout. Un endroit où l'on pouvait découvrir d'un seul coup toutes les villes du monde, tous les métiers, toutes les histoires, simplement en lisant des livres et en écoutant des professeurs. Ah, si seulement elle avait su lire, Aléa aurait tant aimé rejoindre le Mont-Tombe et apprendre. Elle se fichait de tout ce qu'on pouvait dire sur les chrétiens. Il y avait tant de choses qu'elle ne connaissait pas, tant de noms, d'histoires, tant de gens et tant d'idées merveilleuses, différentes, dont elle ne soupçonnait sans doute même pas l'existence. Depuis la veille, il lui semblait qu'elle avait tout à apprendre, qu'elle ne savait encore rien de la vie et du monde, elle qui n'avait eu que les murs de Saratea comme ligne d'horizon, et que chaque jour lui réservait une nouvelle surprise. Elle se dit qu'il n'y avait rien de mieux que le savoir, la connaissance, que c'était sans doute même une richesse plus grande que l'or, et que celle-ci, enfin, était accessible.
« Mais y a-t-il des filles dans votre université ?»
demanda-t-elle après un long silence. Les trois étudiants se regardèrent d'un air gêné. Ils ne s'étaient sans doute pas attendus à cette question, et visiblement, il s'agissait d'un sujet sensible.
« Non, » répondit Darag. « C'est interdit aux filles. »«
Ah, » répondit Aléa, déçue. « C'est dommage. »«
Mais les filles peuvent se rendre à la bibliothèque et y lire tous les livres qui s'y trouvent, à condition bien sûr de payer le droit d'entrée annuel. » Les moines ne sont pas comme les druides. Ils autorisent la lecture et l'écriture, et ainsi chacun peut apprendre. Le savoir, chez nous, chrétiens, n'est pas réservé à une élite.
Mais Aléa n'écoutait déjà plus. Étourdie par le bruit de l'orage qui faisait rage au dehors, elle se laissa emporter dans le flot de ses pensées. Le monde était mal fait, et elle aurait sans doute préféré être un garçon. Il n'y avait pas de justice. Il fallait être née riche pour ne pas errer à 13 ans sur les trottoirs de Saratea et ne pas être née fille pour partir au Mont-Tombe, apprendre le nom des choses et leurs mystères. Quelle logique pouvait-il bien y avoir là-dedans? Dans les rues de la ville, les garçons ne se débrouillaient pas mieux qu'elle, ni par la force, ni par l'esprit. Alors pourquoi? Quelques semaines plus tôt, l'aubergiste Tara lui avait vanté l'honneur d'être une femme, alors qu'entre ses jambes coulait ce sang qu'elle avait d'abord pris pour une punition. Et aujourd'hui, elle avait beau être femme, elle n'en était pas plus libre. Libre d'apprendre comme ces trois garçons un peu fiers qui partaient étudier les échassiers de l'anse d'Ebonne. Non, vraiment, il n'y avait pas de justice. Le monde était mal fait. Si seulement on pouvait le changer, se dit Aléa. Était-ce bien ce que voulait la Moïra, ou devait-on seulement suivre, tels les cheminants, sa voie toute tracée? Aléa se dit que l'on était sûrement là pour agir, changer, bouger, et c'était bien ce qu'elle avait l'intention de faire, aussi jeune soit-elle, et aussi fille soit-elle. Au fond d'elle, la petite se promit qu'un jour, elle ferait tout pour modifier cette loi idiote, et qu'elle deviendrait alors la première fille à entrer à l'université du Mont-Tombe. Elle sourit en se souvenant qu'elle s'était fait bien des promesses aujourd'hui et conclut qu'en premier, elle pouvait se contenter d'atteindre Providence. Mjoln avait déjà mangé près de la moitié du cuisseau quand elle se décida à en prendre une tranche. La viande était délicieusement tendre et la fine couche de couen croustillante à souhait. Elle se régala et quand le repas fut fini, Mjoln paya l'aubergiste de bon cœur et ils attendirent la fin de l'orage en buvant du lait chaud au miel. Les étudiants n'avaient plus prononcé une seule parole pendant tout le repas, comme si la question d'Aléa les avait profondément troublés. Ils s'éclipsèrent bientôt en saluant poliment le nain et la jeune fille et s'en allèrent au sud vers leur mystérieux échassier.
J'aime pas trop ces chrétiens,
glissa soudain Mjoln alors qu'il n'avait pas dit un mot depuis le début du repas.
Bon, après tout, j'ai jamais connu de fille forgeron.
Aléa le regarda en haussant les sourcils, se demandant ce qu'il avait voulu dire, puis quand elle comprit, elle lui adressa un sourire entendu. Quand enfin l'orage cessa, ils reprirent la route ensemble, rassasiés, et plongèrent de nouveau dans leur bavardage, foulant le sol trempé d'un pas sûr et joyeux. Mais après une heure de marche, ils durent quitter bien vite leur humeur légère. Le regard noir de Sultor, le jeteur d'ombre, parcourait lentement la surface de la lande à la recherche du moindre indice. Il l'avait senti. Le Samil d'Anak n'était plus très loin. Le sable blanc et les rochers gréseux étincelaient au soleil comme une gigantesque plage de verre. Le sol était si chaud que des nuées de vapeurs tremblotantes flottaient sur toute la lande, déformant le relief et la ligne d'horizon. N'importe quel être humain aurait souffert sous la chaleur accablante du soleil, mais Aïn Sultor, lui, baigné dans la vapeur du désert, ne sentait rien sous son armure d'acier. Il ne craignait plus ni la chaleur, ni le froid. Il avait parcouru tout le comté de Sar sur son haut cheval noir, explorant comme un limier chaque parcelle de la lande, chaque rue de chaque village, chaque clairière, chaque chemin. Il avait senti les âmes des habitants qu'il croisait, reniflé leur esprit pour repérer le petit indice qui désignerait sa proie. Les gens fuyaient sur son chemin, terrorisés par son allure, et sentant parfois cette vague glaciale qui traversait leur corps quand le prince des Érylim lisait dans le fond de leur âme. Plusieurs fois, ils s'étaient arrêtés pour se nourrir sur la route. Mais Sultor ne mangeait pas dans les auberges, ni même dans les chaumières. Non, le voleur d'âme mangeait dans le crâne de ses victimes. Il se nourrissait de leurs pensées, de leur esprit, de leur mémoire et de leur peur, laissant leur corps imbécile flotter aveuglément dans une torpeur muette quelques minutes encore, avant de s'écrouler sans vie, comme une oie à laquelle on a coupé la tête. Il choisissait ses proies, jaugeait leur âme, aiguisait leurs émotions, puis il les saisissait par les épaules quand la terreur devenait insupportable, quand elle donnait à sa nourriture étrange ce goût amer qui l'excitait tant. Et ils se laissaient alors envahir par l'énergie terrifiée qu'ils volaient à leur corps. Par la simple force de son esprit, le géant parvenait à absorber l'âme de ses proies. C'était l'Ahriman, la force des Érylim. Il n'y avait aucun moyen de fuir. Quand il avait trouvé sa victime, Sultor la tuait, toujours. Il ne lâchait pas prise, n'abandonnait jamais, et plus on lui résistait, plus il prenait plaisir à dévorer sa proie. Il n'y avait plus rien d'humain chez le prince des Érylim, pas un regard, pas un mot, pas un seul geste. Il était devenu une machine à tuer sous les ordres de Maol Morda, et dans ses veines coulait un poison noir. Après plusieurs jours, enfin, il était entré dans le comté de Sar, et alors qu'à l'ouest commençaient à s'élever les chênes et les hêtres verts de la forêt de Sarlia, il avait senti comme une brûlure au fond de son âme. Un signal discret, mais bien présent, qui lui fit arrêter brutalement sa monture. Il n'y avait aucun doute. Aussi faible que fût ce signal, on ne pouvait pas se tromper. C'était celui d'Ilvain Ibouran, le Samil d'Anak, l'homme que Maol Morda l'avait envoyé chercher. Le jeteur d'ombre descendit de son cheval, et lentement, il se mit à marcher, essayant de ne pas perdre la trace encore floue de sa proie. Il ne pouvait se fier à ses yeux, et même s'il continuait de scruter l'horizon à la recherche du moindre indice, il faisait surtout confiance à l'impression qu'il avait au fond de lui-même. Oui, Ilvain était là, mais Sultor peinait à remonter la trace. Il crut d'abord que l'homme était encore loin, puis il comprit ensuite que ce n'était pas le cas. C'était son signal, sa lueur vitale qui était faible. Comme si le Samil d'Anak était mourant. Le prince des Érylim accéléra le pas, se laissant guider par cette brûlure étrange qui se faisait maintenant de plus en plus présente, presque douloureuse. C'étaient deux forces opposées qui peinaient à s'accorder, s'affrontaient malgré elle dans un territoire trop exigu. Cela devenait insupportable, suffocant. Saïman contre Ahriman. La force des druides et du Samil d'Anak contre celle des Érylim. Deux puissances incompatibles, deux énergies adverses qui ne pouvaient coexister. L'horizon plat de la lande blanche se perdait vers le nord, n'opposant aucun obstacle aux recherches du cavalier. Soudain, Sultor sentit un choc violent lui traverser le corps, et il sut que le Samil d'Anak était devant lui. Alors qu'ils avançaient au milieu du chemin bordé de dunes de sable et de pins épars, Aléa et Mjoln furent soudain assaillis par 8 hommes armés de gourdins et d'épées.
« Ce sont eux! Pas de pitié !»
hurla l'un d'eux, tout en faisant tournoyer la lame de son épée dans les airs. Aléa et Mjoln reconnurent sans peine l'un des deux bannis qu'ils avaient fait fuir le matin même et comprirent aussitôt ce qui leur arrivait. Ainsi, les deux lâches étaient partis chercher du renfort et ils revenaient maintenant à l'attaque. Le combat s'engagea. Mjoln fit de son mieux pour protéger la petite, tout en esquivant lui-même les coups qu'on lui portait. Mais les bannis étaient bien trop nombreux. Malgré le tatouage sur leur front qui leur interdisait tout contact avec les citoyens de la Gaëlia, les parias semblaient bien décidés à se mettre de nouveau hors la loi. Bientôt, Mjoln reçut un coup de gourdin sur l'épaule, si fort qu'il tomba face contre terre en hurlant de douleur. Aléa se retourna pour l'aider à se relever, mais elle fut coupée dans son élan par la lame d'une épée qui lui frôla le nez. Évitant l'arme de justesse, elle perdit l'équilibre et tomba sur le dos juste à côté du nain. Ils reçurent tous deux des coups de pied au ventre, sans pouvoir se défendre.
« Enfuis-toi !»
criait Mjoln à la petite, mais Aléa n'avait aucune issue et s'accrochait au nain. L'instant d'après, elle vit l'un des bannis au-dessus d'eux, qui levait son épée derrière sa nuque, prêt à les achever sans la moindre pitié. La haine se lisait dans ses yeux. La haine et la vengeance, comme si le banni avait choisi de faire payer à ses deux victimes le prix de son isolement et de toutes ses souffrances. Aléa se vit morte. Il n'y avait pas la moindre lueur d'hésitation dans le regard de son bourreau, et déjà la lame commençait à descendre. La petite hurla de toutes ses forces, comme si le cri pouvait interrompre l'épée dans sa chute meurtrière. Mais plus rien ne semblait pouvoir arrêter le banni. Le métal de la lame étincela sous les rayons du soleil, projetant un éclat de lumière éblouissant qui aveugla la petite. L'instant d'après, elle sentit un choc brutal et crut que c'en était fini. Pourtant, quand elle rouvrit les yeux, elle vit que le décor n'avait pas changé. À ce petit détail près, que le banni n'était plus au-dessus d'elle. Stupéfaite, elle se redressa et le vit plusieurs mètres en arrière. Son corps avait été projeté contre un arbre et brûlait tout entier. Il gisait là, secoué par quelques 20 soubresauts au milieu des flammes. Et soudain, le temps sembla s'arrêter. Un instant, un court instant. Aléa s'essuya les yeux et vit un spectacle confus. Comme en rêve, se déroulait derrière un voile vacillant qui étouffait autour d'elle les couleurs et les bruits. Les bannis semblaient s'écrouler un à un, brûlés tout entiers par une boule de lumière qui flottait de l'un à l'autre en laissant des traînées blanches et floues sur son passage. C'était horrible et magique à la fois. La boule de feu explosait contre le corps d'un homme, puis se reconstituait au-dessus du cadavre fumant pour repartir comme une flèche dans une autre direction. Les bannis n'eurent pas même le temps de comprendre. La mort les saisissait plus vite les uns que les autres. Et puis soudain, la boule enflammée termina sa course dévastatrice contre un arbre où elle s'éteignit enfin. Quand Aléa put se relever, paniquée et prête à fuir, elle vit apparaître un homme derrière l'arbre sur lequel s'était écrasée la boule de feu. Il était grand et maigre, vêtu d'un long manteau blanc. À son crâne chauve, elle reconnut Félim, le druide mystérieux, dont les mains étaient encore parcourues de petits éclairs blancs qui sifflaient et grésillaient avec un son suraigu.
« C'est vous qui avez fait ça ?»
demanda-t-elle, affolée. Félim ne répondit pas et s'approcha simplement de Mjoln, allongé par terre. Le nain parut surpris.
« Un druide ?
« Vous êtes un druide, n'est-ce pas ?»
balbutia-t-il péniblement dans sa barbe rousse, tout en se tenant l'épaule. « Mon nom est Felim, monsieur, ou plus exactement, Caron Casfad, fils de Catubatuos. Mais Felim est mon nom de druide. Laissez-moi voir votre blessure. » L'épaule du nain était déboîtée. Le vieil homme passa sa main dessus, et Aléa crut voir une lueur rouge sous sa paume. Le nain sursauta. Et l'instant d'après, il était debout, bouche bée.
Guéri ? Je suis guéri ! Trinta ! C'est un prodige ! Vous êtes bien un druide, Aléa ! Un druide, tu te rends compte ?
La petite ne parut pas aussi émerveillée que le nain. Au fond, elle ne savait si elle pouvait faire confiance à un druide. Certains villageois de Saratea disaient parfois qu'ils étaient de vieux fous, complotant derrière les rois, qu'ils jouaient un jeu dangereux avec la magie et la Moïra.
« Vous m'avez suivi ?»
demanda Aléa tout en regardant les cadavres des bannis autour d'elle.
« Oui, et je crois que j'ai bien fait, car je ne pense pas que ces bannis vous auraient laissé la vie sauve. Maintenant approche un peu, que je soigne tes blessures. »«
Je vais très bien, »
se rebiffa Aléa en reculant d'un pas. Bjoln parut étonné et lança un regard inquiet à la petite.
Aléa, ma lanceuse de pierre, Aléa! Hé, j'ai été plus poli avec toi quand tu es venue me porter secours. Ahem. Tu pourrais être plus reconnaissante avec Felim. On ne vexe pas un druide. Ça, non, non, non.
Bjoln, je connais ce Felim. Je ne lui fais pas confiance,
coupa Aléa en chuchotant. Le cornemuseur mit les mains sur ses hanches en fronçant les sourcils, le menton baissé, appuyant sa barbe frisée sur le haut de sa poitrine. La petite soupira en levant les yeux au ciel.
« Je ne vais pas lui faire confiance simplement parce qu'il est venu nous aider » protesta-t-elle.
« Aider ?»
s'offusqua le druide.
« Il me semble qu'il n'y avait plus grand-chose à aider quand je suis arrivée. Sauver, ça, oui »
corrigea-t-il en souriant. Aléa avait de la peine à cacher sa gêne. Elle savait très bien pourquoi le druide était là. C'était justement ce qui lui avait fait fuir Saratea le matin même.
« Ce n'est pas parce que vous m'avez sauvée que je vous donnerai ma bague, » dit-elle enfin en cachant ses mains derrière son dos.
« Accepteras-tu au moins que je t'accompagne jusqu'à Providence pour que je t'explique pourquoi je t'ai suivie ?»
Aléa regarda le nain qui semblait s'impatienter. Elle était confuse. Ce Felim était si mystérieux. D'abord, il avait tué tous les bannis par magie en moins de temps qu'il n'en fallait pour le dire. Et ensuite, il avait soigné son ami Mjoln. Mais d'un autre côté, tout semblait indiquer qu'il était là pour la juger. Et peut-être même croyait-il qu'elle avait tué cet homme dans la lande avant de lui voler sa bague.
« Si je te voulais du mal, Aléa, crois-tu que je ne t'aurais pas déjà tué 1000 fois? Et si je voulais voler ta bague ? « Crois-tu que je n'aurais pu le faire avant même que tu n'entendes parler de moi ?»
Aléa admit que sur ce point, Felim ne mentait pas. La curiosité commençait à l'emporter.
« D'accord, Felim. Vous pouvez m'accompagner, » finit-elle par céder.
« Nous accompagner ?»
s'écria le nain aussitôt en se saisissant de sa cornemuse.
« C'est pas tous les jours qu'on peut parler avec un druide, et je ne vais pas vous abandonner comme ça. Ça, non. Pas comme ça. Bras dessus, bras dessous, et pas de pitié pour les vilains larrons. Voilà la chanson du jour. Pas de pitié pour les vilains larrons. »
Ils se mirent en route rapidement, pressés sans doute de quitter le décor de leur bataille. Le druide marchait en avant, d'un pas décidé. Il donnait ainsi l'impression de choisir le chemin, de guider les deux autres. Il y avait dans sa démarche un mélange de force et de grâce que rien ne semblait pouvoir perturber.
« Comment avez-vous fait pour envoyer ces boules enflammées, tout à l'heure ?»
demanda Aléa sans regarder le druide, quelques pas derrière lui. « Elle se décide enfin à me parler, » pensa le vieil homme. « C'est donc sa curiosité qui me permettra de l'apprivoiser. Je dois en profiter. »
« Je suis un druide, Aléa. » Et je siège au conseil des grands druides. J'ai étudié toute ma vie pour connaître ce genre de secrets, et bien d'autres encore.
Vous appelez ça un secret ?
Oui. Comme j'appelle secret le nom de l'homme que tu as trouvé dans la lande. Comme j'appelle secret ta naissance. Comme j'appelle secret la raison de ton départ.
Vous connaissez ces secrets-là ? S'étonna la jeune fille.
À moins que vous ne disiez tout cela pour attirer mon attention, n'est-ce pas ? Je ne suis pas stupide, vous savez.
En effet, je n'ai jamais vu une telle volonté et un esprit aussi vif chez un enfant de son âge. Si seulement elle pouvait me faire confiance. Comment crois-tu que je t'ai trouvé ? Par hasard, peut-être.
Puisque vous savez tout, alors expliquez ma naissance et la raison de mon départ.
Si j'en étais certain, je crois bien que cela me ferait encore plus peur que toi. Ton histoire est écrite dans le cœur de la Moïra. Il suffit de savoir lire ce livre-là. Je sais par exemple que tu es la fille de la terre. Cela ne signifie rien pour toi ?
Tous les druides parlent ainsi. Par énigme ?
Demanda Aléa avec un ton moqueur. Mais au fond d'elle, elle se demandait comment le druide connaissait aussi son surnom. L'avait-il entendu en la suivant depuis Saratea ?
Les énigmes posent les bonnes questions. Et les questions nous en apprennent souvent bien plus que de simples réponses. Il suffit de savoir écouter.
Le druide s'arrêta soudain et se retourna vers ses deux poursuivants.
Sais-tu écouter, Aléa ?
Demanda-t-il en se penchant vers la jeune fille. Elle haussa les épaules. Le vieil homme la mettait mal à l'aise. Heureusement, Mjoln intervint avant que le silence ne devienne trop long.
Eh bien, pour voir si tu sais écouter, je vais te jouer un peu de cornemuse, tu veux bien ?
Avec plaisir, acquiesça la petite alors que le druide se remettait en marche, un sourire aux lèvres.
Et c'est ainsi que cette étrange compagnie reprit le chemin de Providence, au rythme joyeux des mélodies de M. Mjoln à Bach, qu'on appelait le cornemuseur.